Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonjour, bonjour ou bonsoir à toutes et tous. On refait le match, sixième de la saison, comme chaque samedi, pour le meilleur de l'expertise et du décryptage, à destination de tous les publics, on l'espère, avec toujours respect, bienveillance, bonne humeur, rires et sourires. Puis à 20h, RTL Foot, en compagnie d'Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Quentin Vasselin, et l'intégralité de Marseille-Metz. À 19h, quart d'heure par quart d'heure, la cinquième journée de Ligue 2. Et depuis 17h, suite de la Ligue 1, l'équipe de Rennes mène à Saint-Étienne sur le score de 2-0. Dans un instant, nous prendrons la direction du stade Geoffroy Guichard. Et on débattra bien évidemment de cette rencontre entre le deuxième et le troisième du championnat. Au sommaire, en attendant les sanctions contre Neymar et Alvaro cette semaine, mais où sont passées les bonnes images de la télévision pour se faire une meilleure idée? C'est une question que je poserai à mes débatteurs. Le mercato pipo, ça bouge un peu, beaucoup, modérément, rien de convaincant à Paris, à Lyon, à Marseille et ailleurs bien évidemment. Le Bayern Munich, encore un trophée cette semaine avec la Super Coupe d'Europe. Est-ce que c'est l'équipe de la décennie, le Bayern Munich? Et puis en fin d'émission, la nouveauté, vous la connaissez, les tirs au but avec l'ensemble de l'actualité dont les thèmes n'ont pas été transmis aux chroniqueurs et ils les découvriront donc au fur et à mesure. On refait le match autour de la table. Philippe Sanfourche, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir.
Chef de la rubrique foot sur l'antenne de RTL. Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, bonsoir, bonsoir Sébastien.
Je suis impressionné par ce nouveau titre de Philippe Sanfourche.
Ah, pas nouveau.
Pas nouveau,
c'est vrai.
Ah, c'est vrai.
Alors, pour un journaliste bien informé, Sébastien.
Oui, mais moi, je m'intéresse à la matière que je traite, pas au monde des médias. Je sais que vous aimez bien vous regarder le nombril.
Écoutez, on le dit. Mais non. Non, je sais que la meilleure défense, c'est l'attaque, là, mais en l'occurrence, dans chaque sommaire.
J'ai été prise au piège.
Vous n'écoutez pas.
Mais voilà, vos prédécesseurs n'étaient pas assez en avant, Philippe Sanfourche.
Vous connaissez Karim Nedjari?
Vaguement.
Directeur éditorial sport à Webedia.
Bonjour Christian.
Bonsoir Karim Nedjari et Gilles Verdez, le procureur.
Bonjour.
Le procureur d'En fait le match.
Bonjour.
Bonsoir Gilles. Vos messages sur les réseaux sociaux avec bien sûr le compte Twitter @RTLFoot. Il y a également RTL.fr puisque l'émission, vous le savez, est filmée, ou la nouvelle application RTL. Vous y allez en trois clics. Baptiste Durieux vous attend. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Qui suivra pour nous également la Ligue 2 et l'émission réalisée par Lucas Dindeleu. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL. On refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match en compagnie de Philippe Sanfourche, Sébastien Tarago, Gilles Verdez et Karim Nedjari. Un match en cours. Saint-Étienne-Rennes à Geoffroy Guichard. Sébastien Malher, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Le score Sébastien.
2-0 pour Rennes, toujours. Début de Naïef Aguer à la 33e et de Serro Girassi à la 53e. Le gros coup pour l'instant réalisé par les Rennais.
Vous intervenez évidemment Sébastien dès que vous le souhaitez. Alors, je ne vous le cache pas, j'ai un devoir de vérité à effectuer auprès des auditeurs de RTL. Car c'est une émission qui se prépare avec un conducteur, comme on dit, avec des thèmes qui sont évoqués, éventuellement que je vous transmets tout au long de la journée. Et lorsque vous êtes arrivés, messieurs, je vous proposais de disserter un peu, et pour une fois, sur un match de foot qui oppose le deuxième au troisième du championnat. Alors évidemment, il y a d'autres thèmes et on va les évoquer. Il y a par exemple, où sont passées les images? Ah ça vous intéresse. Où sont passées les images,
Images de quoi, Christian?
Entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille pour sanctionner Alvaro et Neymar. Et là, vous nous dites, bon, le match entre Saint-Étienne et Rennes, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire?
Alors, on a pas tout à fait dit ça quand même, Christian. Hein. On a dit face à cette jeunesse rennaise triomphante.
Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer
par un sujet un peu plus polémique, qui pourrait déchaîner les passions?
Et qu'est-ce que je vous ai répondu, Gilles?
Qu'est-ce que je vous ai répondu? Vous avez répondu que vous écoutiez parfois.
Non.
Vous avez répondu que vous étiez d'accord, mais sans fourchement.
Non.
On est un peu sur un mépris de classe.
Oui, vous avez dit par.
Si on n'est pas sur le PSG ou sur l'OM, ça ne fait pas actualité.
Christian a dit.
Saint-Étienne ne sont pas des places fortes.
Parlons du terrain. La vérité, c'est qu'on s'est dit quoi? On s'est dit on va attendre la fin du match pour en parler. Et ça me paraît beaucoup plus raisonnable, puisqu'il y a 2-0, il reste 15 minutes à jouer.
le score peut largement évoluer.
Non, on n'a pas dit exactement ça.
Il pourrait être chef de la rubrique foot à l'équipe.
Je prends le risque de vous proposer de parler de ce match avant d'en connaître l'issue, avant même que le coup d'envoi soit donné. Tout simplement, il n'y a qu'une raison, Gilles. Vous ne la donnez pas, la raison. C'est l'occasion, enfin, de parler un peu de football.
Pelouse, terrain, vous avez dit.
Et vous nous dites, non, priorité à la polémique, où sont passées les images de Marseille?
Moi, j'étais un peu réservé, mais Tarago et Nedjari se sont opposés à ça.
La sueur, les maillots, tout ça, c'est
la vérité. On s'est dit que si on commençait à parler ballon, Gilles Verdez risquerait d'être en difficulté.
Et donc, on s'est dit, autant aller sur le sujet polémique, qu'il nous dise des horreurs, comme la dernière fois que j'ai fait une émission avec lui, que j'étais l'anti-France, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, je me suis dit...
Ça, c'est pas passé.
Je me suis dit, on va l'aider.
Il y a un malaise latent depuis quelques semaines.
Moi, je propose de lancer un petit sondage avec la complicité de Baptiste Durieux. Enfin, un sondage, une consultation, car il n'y a rien de scientifique, évidemment, pour demander aux auditeurs qui nous écoutent, on fait le match, de savoir s'ils préfèrent qu'on évoque tout de suite le match qui a lieu en ce moment et qui voit Rennes mener à Saint-Etienne 2-0, ou si l'on doit parler des images qui existent, qui n'existent pas, pour sanctionner Neymar et Ribéry.
Est-ce qu'en attendant la réponse, on fait quoi? On met toutes les pubs?
Karim Nedjari, sa présence est importante. C'est un homme de télévision, notamment, Karim Nedjari. Donc on va pouvoir parler tout à l'heure de ces images qui existent ou qui n'existent pas, Karim. Mais quand même, Saint-Etienne-Rennes. Rennes fait son taille la route. Le stade rennais taille la route, les amis.
Bah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Sébastien Tarago.
Il y a eu des recrutements ambitieux. Il y a un effectif assez important. D'ailleurs, il faudrait peut-être espérer pour Rennes qu'il puisse dégraisser, notamment devant avec Mbaye Niang. Mais il y a notamment le recrutement de Guirassy, qui pour l'instant est un succès très important. On verra sur le long de la saison. Mais c'est un joueur qui vient d'Amiens, qui était en Ligue 2, qui a été acheté quand même 15 millions d'euros. C'est un investissement lourd pour un joueur comme lui. Et c'est vrai que c'est un garçon dont on considère qu'il a des qualités considérables. Donc pour l'instant, il y a des ambitions du côté de Rennes et on voit qu'il y a une envie de construire un effectif très important pour disputer avec des champions, puisque bien sûr, il y a aussi la volonté, par exemple, de recruter Jeffrey Adélaïde à Lyon pour une somme qui est entre 25 et 30 millions d'euros. C'est un club qui a envie de peser dans le foot français sur le long terme.
Vous dites ça parce que Rennes mène à Saint-Etienne. On aurait pu dire exactement la même chose si Saint-Etienne, deuxième du championnat...
Ah, pas du tout. Mais ah bon, non, il y a plus de certitude. Il y a quand même plus de certitude à Rennes. On a l'impression qu'en fait, tout se fait en cohérence et en tranquillité dans ce club. Parce qu'en fait, avec l'argent de M. Pino, ce club-là pourrait être largement doubler son budget. Là, ils font les choses tranquillement. Il y a maintenant une logique entre le nouveau président, le manager, l'entraîneur qui est Stéphane. Ils mettent tout à l'endroit. Et je trouve qu'ils font aussi un recrutement intéressant. Non pas, ils ne vont pas chercher des opportunités de marché, mais ils vont chercher là où ils avaient des trous. Et là encore, on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Les deux buteurs, aujourd'hui, c'est Ajred en défense qui a un recrutement et Guirassy qui a un vrai potentiel, en sachant que Mbaye Niang va partir. Et je trouve que là, ils grandissent naturellement, ce qu'on dirait, ils grandissent de manière organique. Vous savez, comme dans chez Twitter, il y a ceux qui ont 10 000 personnes, il y en a qui en ont 100 000, mais ceux qui en achètent 90 000. Il y a organique et mercantile. Et bien là, je trouve que de la manière dont ils font, c'est qu'ils grandissent tranquillement.
Moi, j'ai des
mais Gilles Verdez, il va falloir faire les footballs.
Mais vous expliquiez, à juste titre, que si le résultat avait été inversé, oui, nous aurions crié au génie côté Saint-Etienne.
Sans aucun doute.
Mais c'était le match charnière. Le vainqueur de ce match-là, vu le désert de la Ligue 1 actuelle, il ira sur le podium. Donc Rennes montera sur le podium. Et Saint-Etienne va... Mais c'était le match décisif, oui, c'est ce match-là. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec mes collègues quand ils ont voulu bordurer, blacklister ce match. C'est le match fondateur du nouveau, pas du nouveau héros, mais de la nouvelle star montante de la Ligue 1, c'est Rennes. Voilà, c'est écrit, enfin il reste 8 minutes, mais c'est écrit, c'est Rennes. Et Rennes ira très loin, très très loin cette saison.
Philippe Sanfourche.
Après, il y a des matchs qui vont arriver bientôt. Vous savez, il y a une petite musique avant, sur la scène européenne. Et puis cette petite musique, des fois, elle fait perdre un petit peu les pédales aux équipes qui manquent un peu l'expérience. Donc on verra aussi, à la lumière de la Ligue des Champions, ce que Rennes est en capacité de nous proposer cette saison. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une vraie cohérence dans la construction, que, souvenons-nous, l'an passé, en plein cours de saison, il y a eu l'épisode Olivier Létan, Julien Stéphan, qui aurait pu être dévastateur. Ça a finalement été géré très correctement. Julien Stéphan est manifestement la valeur montante sur le banc en France ces derniers temps. Il n'a pas que des amis, il en a beaucoup, on les entend souvent, mais il a aussi des gens qui attendent sérieusement qu'il puisse se prendre les pieds dans le tapis. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on parlait justement du premier buteur à Guerre, qui est voilà des recrutements intelligents. C'est un garçon qui a été recruté 5 millions à Dijon. C'était pas un titulaire indiscutable. Là, il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail, effectivement. C'est pas le fait du hasard.
Karim Nedjari.
Mais pour boucler par rapport à votre préambule brillant que vous avez commencé dans cette émission.
Merci Karim.
Par rapport au PSG et à Marseille, à Rennes, vous avez le temps. Une affaire comme il y a eu l'an dernier entre l'Étang, ça aurait explosé à Marseille, à Paris, et là, tout le monde aurait fait des choux gras. Là, à Rennes, vous perdez deux ou trois matchs, c'est pas un problème.
Ça a été chaud quand même à un moment entre l'Étang.
Oui, mais ça fait pas d'accord.
Le stade Rennais,
il vire tout le temps.
C'est en interne.
Ça fait pas les débats des médias parisiens, fait pas les unes des journaux, ça prend pas des cordes.
Mais c'est la guerre des clans là-bas, beaucoup.
Mais ça a l'air de s'apaiser un peu plus maintenant.
C'est-à-dire, Sébastien?
Ah bah il y a des fortes zones d'influence.
Ça s'est calmé quand même. C'était la saison dernière.
Ça se calme jusqu'au moment où ça se calme.
Bien
plus.
Sûr.
Et au moment où ça repart, c'est le principe des tempêtes. Ça s'arrête de temps en temps, mais ça revient. Et chez eux, ils sont habitués à cela parce que il y a des hommes de coulisses qui.
On avait dit qu'on parlait de terrain, Sébastien. On a dit qu'on parlait de terrain.
Oui, bah désolé, mais ça fait partie
du stade
rennais.
Des
hommes de coulisses et d'influence qui, de temps en temps, perdent du pouvoir, de temps en temps, en regagnent. C'est comme ça, par exemple, qu'Olivier Létang, qui avait un bilan excellent, a été licencié en très peu de temps, contre un chèque monumental, parce que quand il s'agit de régler les problèmes, l'avantage, c'est que la famille Pinot fait des chèques assez, assez importants. Donc, dans ce jeu-là, le jeune entraîneur, fils de Guy Stéphan, Julien Stéphan.
Oui, non, mais ça, pourquoi vous dites ça? Oui, parce que effectivement, c'est son fils, mais c'est bon.
Il n'y a pas d'ironie.
Ah bon, d'accord. Okay.
Mais après,
je vois le mal partout. Là.
Ben oui, ça, c'est votre problème. Mais d'ailleurs, Guy Stéphan intervient de temps en temps quand même dans la carrière de son fils. Donc, si vous voulez aller sur ce terrain-là, on pourra en parler. Mais bon. Mais il a beaucoup pesé et influé sur les politiques du club pour faire licencier Olivier Létang. Donc,
là, on parle de la famille Pinot. Il y avait au sein même de la famille Pinot le clan Stéphan et le clan Létang.
Bien sûr.
C'est le fils qui l'a emporté.
Il y a même au sein de la famille Pinot parfois des désaccords. C'est ça aussi le charme de Rennes. C'est qu'entre père et fils, etc., il y a toujours eu des désaccords. Et c'est quand même un club sanguinolent, Rennes. Hein. Ils ont viré des entraîneurs, des managers. Ça a sauté à tous les étages à Rennes de tout temps.
Virer de la présidence, revenir à la présidence quelques années plus tard, revenir à Ruello.
Après, comme l'actionnariat est stable au plus haut niveau, il n'y a pas de crise de gouvernance. Parce que la crise de gouvernance, elle pourrait l'être si l'actionnaire majoritaire sautait ou s'il y avait des problèmes, etc. Mais il n'y a jamais ça. Contrairement à Marseille, par exemple, on se dit que ça va être vendu. Rennes, ce n'est pas du tout le cas. Mais en dessous, c'est très compliqué. Et là, c'est vrai qu'on a une colonne vertébrale qui a l'air de fonctionner.
Mais on peut se féliciter que pour une fois, ce soit l'entraîneur qui ait gagné contre le président. Parce qu'il y a tellement de présidents en France qui se prennent pour des entraîneurs. D'ailleurs, c'est incroyable quand on voit le nombre de présidents qui sont sur les bancs de touche, qu'on ne voit pas à l'étranger. Là, Stéphan, il a un projet de jeu. Il a un projet de club et un esprit. Et je trouve que pour une fois, c'est bien qu'un entraîneur ait gagné son bras de fer contre un directeur sportif.
Bon, on refera le bilan du Stade Rennais dans une dizaine de journées. Résultats par mes aventures.
Mais du coup, on n'a pas parlé de Saint-Etienne.
Mais on va parler de Saint-Etienne. Mais ça fait quand même, regardez, un quart d'heure qu'on parle.
Mais on peut faire pareil sur Saint-Etienne.
Et derrière la publicité, je vais vous parler de deux joueurs qui peuvent, en tout cas pour l'un d'entre eux, poser problème. C'est Fofana. À Saint-Etienne. Mmh. Là, il y a quand même un début de crispation au sein du club pour savoir s'il faut le lâcher pour environ 30-35 millions d'euros. Alors que de l'autre côté, à Rennes, on a laissé partir le gardien de but Mendy et qu'il va falloir maintenant aussi trouver un autre gardien de but. Et on parle, paraît-il, notamment, mais pas seulement, de Kevin Trapp. En revanche, à Geoffroy Guichard, on retrouve Sébastien Malère. Il reste environ 3 minutes plus le temps additionnel, Sébastien.
Exactement, et toujours ce score de 2-0 pour les Rennais. On le rappelle, but de Aguerre à la 33e minute, but de Serro Guirassy à la 53e. Les Rennais qui gèrent cet avantage, les Stéphanois qui poussent, mais pour l'instant ça reste muet du côté des hommes de Claude Puel qui vont concéder dans quelques minutes leur première défaite de la saison après 3 victoires et 1 nul. Il y avait déjà eu un premier accroc la semaine dernière sur la pelouse de Nantes, les Stéphanois qui menaient 2-0 qui s'étaient fait rejoindre en fin de rencontre, et cette fois-ci ils ont encaissé leurs deux premiers buts cette saison sur la pelouse de Geoffroy Guichard dans le quasi huis clos du Chaudron cet après-midi. Et les Rennais qui sont en train de réaliser un énorme coup en prenant la tête seule de la Ligue 1 à la fin de cette cinquième journée. Rennes, c'est séduisant, c'est surtout solide et structuré, vous en parliez, ce milieu à 3 notamment qui a joué pendant 80 minutes à peu près, Nzonzi, Kamavinga, Bourigeaud, les Rennais qui gèrent pour l'instant à 1 minute de la fin du temps réglementaire, toujours 2-0 pour les Bretons.
Le temps additionnel à suivre bien évidemment dans On refait le match sur RTL. Sébastien en parlait dans quasiment le huis clos, dans un huis clos.
Pas tout à fait, messieurs.
La jauge était de 1000 personnes, Geoffroy Guichard.
Attention, peut-être le troisième but, Rennais. Il est signé Adrien Hunou. Le troisième but Rennais, ballon long en profondeur. Le petite balle lobée devant Jesse Moulin, Adrien Hunou, qui venait d'entrer en jeu il y a quelques instants, la place de Serou Guirassy. Et ça fait donc 3-0. Ça vire presque à la correction ici sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Petit ballon lobé d'Adrien Hunou devant Jesse Moulin. 3-0 désormais pour le Stade Rennais, juste avant la fin du temps réglementaire.
Un petit problème avec Jesse Moulin, tout de même. Une sortie inopportune, on va dire ça comme ça.
Il a réalisé un bon début de saison.
Mm-hmm. Enfin, c'est toujours mieux que Ruffier, hein. Le gars qui voulait faire imploser le club. Heureusement qu'on l'a viré, celui-là.
Il est toujours là. Mais sportivement, c'est évidemment une perte de jouer avec Jesse Moulin plutôt qu'avec Stéphane Ruffier, évidemment. Sportivement.
La fameuse consultation, on parle du match ou on parle des à côté de la Ligue 1 Baptiste Durieux sur les réseaux.
Ben, nos chers auditeurs qui veulent entendre parler du match, messieurs, je suis désolé pour Gilles Verdez.
Vous avez raison, Christian.
Merci,
bravo.
Gilles.
La démagogie.
Merci, Gilles.
C'est ce qu'on est en train de faire.
Ce sont les gens qui décident.
Mais, Christian, vous faites œuvre de service public.
Merci, Karim.
Parce que pour le moment, il est clair qu'il y a une chaîne qui est en train de se créer et que le match n'est pas très visible. Donc il est normal qu'on parle de match et qu'on explique un petit peu qu'il y ait des buts, des actions, des matchs qui ont lieu à 17h, des fois à 13h, parce qu'on est un peu perdu, c'est un peu devenu un peu visible.
Oui, alors Karim Nedjari, nous ne sommes pas là pour faire le procès de nos confrères de la télévision.
Ah là, loin de loin.
Nous travaillons sur une antenne de radio, la première radio de France.
C'est difficile de voir les matchs en ce moment, c'est ce que je voulais dire.
Il faut peut-être leur accorder. C'est plus difficile de les voir au stade, messieurs.
Oui, mais on ne peut plus les voir en stade non plus, Christian.
Ne vous inquiétez pas, on va parler de Mediapro et Téléfoot, mais ne faisons pas un procès avant l'heure.
Ah non, il n'y a pas de procès dans ma voix.
Souvenez-vous.
On pourra reparler de la pelouse quand même et de cet exploit rennais après la pub.
Bien sûr.
Ah,
bien
enfin, sûr. Bravo.
La consultation, Baptiste, on vous a interrompu, pardon.
Mais il n'y a pas de problème. Message de Simon. Le football, c'est Camavinga, c'est le management de Stéphane. Alvaro, Neymar, la France n'en peut plus. Débat lassant, lancinant, stop. Et puis le message d'Etienne dans la même tonalité. À moins de voir Neymar, Alvaro dans un octogone, ce qui serait à coup sûr divertissant, nous dit Etienne. Je préfère largement parler du Stade Rennais plutôt que d'un soi-disant raciste ou d'un soi-disant menteur. Arrêtons de remettre des pièces dans la machine.
Eh bien, je crois que les auditeurs, eux, n'ont pas perdu la raison. Et après la publicité, nous continuerons de parler de Saint-Étienne-Rennes. A tout de suite, c'est On refait le match jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match jusqu'à 20h. Les débats sont enflammés, même durant la publicité. Si un jour on pouvait compiler tout ce qui se dit pendant la publicité. Avec Sébastien Tarago, Philippe Sanfourche, Gilles Verdez et Karim Nedjari. Le temps additionnel largement entamé. Sébastien Malher, toujours 3-0 pour le Stade Rennais.
Exactement, toujours 3-0. Les Rennais qui se dirigent vers une quatrième victoire consécutive pour prendre ce soir les commandes de la Ligue 1. On rappelle, début d'Aguerre, Guirassy et Hunou il y a quelques minutes de cela. Les Rennais qui se dirigent donc vers une quatrième victoire cette saison, toujours invaincu les hommes de Julien Stéphan.
Alors, il y a un point de crispation à Saint-Étienne qui va peut-être se tendre encore un peu plus, s'accentuer un peu plus, c'est le cas Wesley Fofana. Car il y a une nouvelle politique qui semble se dessiner à l'AS Saint-Étienne, c'est de faire sortir les jeunes, de les protéger, de les conserver et de jouer avec une équipe au centre de... J'ai entendu le coup de sifflet final,
Sébastien. Messieurs. Oui. Terminé à l'instant ici à Geoffroy Guichard, gros coup réalisé par Rennes qui s'impose 3-0 ici dans le chaudron. Début de Naïef Aguerre à la 33e, Serou Guirassy à la 53e, Adrien Hunou à la 90e, et donc le 3e de la dernière saison de Ligue 1 prend ce soir les commandes du championnat. Victoire nette et sans bavure pour les Bretons, de la sérénité, on en parlait, de la solidité face à des Stéphanois qui ont certainement montré leurs limites ce soir après un excellent début de saison. Saint-Etienne qui rentre dans le rang et qui concède sa première défaite depuis le début de cette saison. 3-0 pour Rennes ici à Geoffroy Guichard.
Fofana a joué, est entré en cours de jeu ou pas?
Exactement, il est rentré à la pause. Il n'était pas titulaire au coup d'envoi, il est rentré à la pause en position d'arrière droit, messieurs, ce qui n'est pas son poste habituel. Il a remplacé le jeune Aymen Mouefek qui était en difficulté en première mi-temps. Fofana qui aura donc joué 45 minutes de plutôt bonne facture, mais un poste inhabituel pour lui. Et vous allez en parler,
bien
en tout
sûr.
Cas, des tensions en interne avec Claude Puel et un départ, on ne sait pas encore s'il sera acté dans les prochains jours.
Merci beaucoup Sébastien Malher à Geoffroy Guichard. C'est un point de crispation donc qui pourrait s'aggraver parce que Wesley Fofana veut quitter l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne mise sur sa formation. Claude Puel, qui est entraîneur, qui veut des résultats, qui est également manager, veut le conserver. Et à mon avis,
siège au conseil de surveillance.
Oui, et le tandem Cayazzo-Romeyer, qui avait demandé dans un premier temps à Puel d'économiser, de jouer sur la carte jeune, à 30 ou 35 millions pour aller en Angleterre, à mon avis, les dirigeants vont peut-être changer d'avis.
Sauf que, à mon avis, la stratégie de Puel est la bonne, le conserver et faire qu'il soit vendu sans doute, s'il faut le vendre, 50 millions, une fois qu'il aura encore progressé l'année prochaine. Si vous le vendez maintenant, vous n'avez pas l'argent tel que vous pourriez l'avoir plus tard, et vous perdez le joueur. C'est beaucoup, il ne faut jamais perdre deux fois. Alors oui, vous pouvez le perdre mentalement parce qu'il veut rester, parce qu'il veut partir. Mais il faut, Puel étant manager, les deux dirigeants ne peuvent pas le déjuger là-dessus. Mais c'est toute la politique sportive de Saint-Etienne qui va s'effondrer.
Sébastien Tarrago. Je serais ravi que sportivement, il puisse rester à la Saint-Etienne. Mais après, par rapport à ce que tu dis, il y a énormément de contre-exemples. Et il y en a un qui concerne la Saint-Etienne, c'est Saliba. Saliba, il a été vendu à Arsenal. D'accord.
Mais il est resté une saison à Saint-Etienne.
Il a été vendu à Arsenal, il a été prêté, effectivement, pendant une saison à Saint-Etienne. Mais si Saint-Etienne ne l'avait pas vendu il y a un an, je vous garantis qu'ils auraient vendu ce joueur 2 à 3 fois moins cher, parce qu'il s'est blessé gravement, il a très peu joué. Il y a eu le Covid, bien sûr, qui change un petit peu le marché. Là, la proposition pour Fofana, 35 millions, c'est le loto. Et si jamais ça monte à 50 millions, Gilles, je suis prêt pas à manger un rat comme certains le font, mais au moins boire un coup avec toi.
Philippe Sanfourche.
La démonstration, elle est très bonne. Mais Saliba, par exemple, si tu es un club costaud avec les reins solides et que financièrement tu peux compenser, imaginons effectivement qu'il n'ait pas conclu cette affaire Saliba, et ben tu gardes Saliba une saison de plus et tu connais la valeur du joueur. Et s'il ne se blesse pas, parce qu'il va pas se blesser tous les ans, tu peux estimer qu'il va retrouver sa valeur. C'est-à-dire que c'est exemple et contre-exemple. Là, bien je sûr. Crois que sur ce coup-là, Puel il joue sa crédibilité. C'est-à-dire qu'il a accepté un cadre général. On sait que le football français aujourd'hui ne peut pas faire l'économie du trading, que ça fait partie pour ces clubs de cette dimension moyen plus que son Saint-Etienne. C'est nécessaire, c'est comme Lille. Mais il faut le faire intelligemment. Et le faire intelligemment, c'est dire je base mon effectif sur quelques joueurs clés, et notamment Fofana en faisait partie dans sa défense. Aujourd'hui, je pense que Puel, quand il se couche le soir, effectivement, il se dit 35 millions pour un joueur de 19 ans qui a très peu d'expérience et qui, ne nous le cachons pas non plus les yeux, d'un point de vue de la structure, de la façon dont il doit être dégrossi, il y a encore du travail sur Fofana. C'est pas un joueur abouti. Donc il prend des risques, c'est sûr.
Mais dépassons le cas Fofana à Karim Nedjari, parce que justement, ce sont là deux politiques dans le football français qui s'opposent. Celle du trading, où on achète jeune et on revend pour faire du bénéfice et avec des objectifs sportifs à très court terme. Là, la AS Saint-Etienne se lançait dans une politique de formation sans obligatoirement
mais
vendre
ses
jeunes.
Mais c'est aussi du trading.
Il faut le faire intelligemment. Moi, en tout cas, c'est une histoire qui me passionne parce que je pense qu'elle résume la Ligue des Talents et le football français aujourd'hui. Il y a deux histoires en une. Il y a Puel qui essaie de reconstruire sainement un club d'un côté,
bien sûr,
en prenant du temps et en remettant l'église au centre du village, parce qu'avec Gasset, c'était quand même la foire aux joueurs qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et de l'autre côté, il y a l'histoire de Fofana qui est aussi touchante. Parce que c'est un gamin qui vient d'un milieu très très défavorisé marseillais, qui peut mettre sa famille à l'abri là, tout de suite. Et il a raison, Sébastien, parce qu'aujourd'hui, ils seront un genou, une cheville, et c'est fini pour lui. Et n'oublions pas que 35 millions d'euros, c'est un tiers du budget de Saint-Etienne. Donc tout ça, Puel, je le comprends. Je comprends la politique de Saint-Etienne, mais je comprends aussi le gamin, Fofana, qui peut mettre toute sa famille à l'abri sur un truc.
Ça, si vous cédez sur Fofana, vous allez céder sur tous les jeunes. C'est vraiment l'exemple pour moi. On disait que ce match, la Saint-Etienne-Rennes, c'était le match charnière. Fofana, c'est l'exemple, le cas d'école. Si vous le vendez, vous devenez Lille, qui est un club qui n'a pas d'âme, qui vend et qui fait du business. Ils s'en foutent du foot, c'est totalement assumé. Les pauvres supporters lillois seront désemparés dans quelques années.
Il y a une inflexion intéressante quand même.
Non, je ne suis pas d'accord, Philippe. C'est que de l'argent. Saint-Etienne, il y a une âme. Si vous vendez Fofana, vous perdez votre âme. Il ne faut pas le vendre.
Mais à Saint-Etienne, il y a un petit peu de question d'argent aussi. Et il y a un moment, si vous avez besoin d'acheter des pâtes pour manger, et ben vous essayez de trouver de l'argent. Et à Saint-Etienne, en l'occurrence, ils ont besoin d'argent parce qu'ils sont en difficulté financière.
Il y a un club qui est en dessous, qui est Angers, depuis quelques années. Un exemple très simple, il y avait Santa Maria. L'année dernière, à l'été, il y avait des offres. Il y avait des offres, je crois, d'Aston Villa, je crois que Naples s'était renseigné, aux alentours de 10 millions. Ils savaient qu'ils allaient le vendre, mais ils en avaient encore besoin. C'est-à-dire qu'en fait, tu programmes intelligemment. Tu te dis, tel joueur, ok, mais l'année prochaine. Et résultat, ils ont tenu le coup, oui, mais ils ont fait l'année, ils ont vendu Rennes, et là, ils le font pour 15 millions. Ils ont donc profité une saison de plus de ce joueur qui a densifié leur milieu de terrain, et ils ont fait 5 millions de plus.
Il faut quand même aussi, la vérité oblige à dire aussi, qu'il faut ajouter la dimension personnelle de Puel et Leicester. C'est-à-dire que Puel n'a aucun envie de faire plaisir à Leicester qu'il a mis dehors il y a peu de temps.
Oui, Leicester ou West Ham qui se met sur le, les rangs. Mais voyez-vous, c'est le point de crispation. Il y a deux politiques. Encore une fois, je suis assez d'accord avec Gilles qui s'oppose. Vraiment le trading pur et dur et la volonté quand même d'essayer de garder ses meilleurs jeunes pour faire pousser une. Mais en revanche, dans les vestiaires, ça risque de compliquer aussi la situation. Saint-Etienne avait eu déjà le cas Ruffier. Si les dirigeants stéphanois se mettent le cas Fofana sur le dos, ça risque de.
J'ai l'impression que c'est pas le même état d'esprit. Le gamin, dans l'interview la dernière fois, je trouvais qu'il était très intelligent, très posé, qu'il a un vrai respect du maillot vert, que j'ai moins senti dans le camp Ruffier. Quoi.
C'est exact.
Non, mais on ne peut pas dire que Ruffier n'a pas le respect du maillot vert.
Ah si,
il l'a fait gagner 10 points par saison à lui tout seul pendant 10 ans, à l'époque où l'équipe ne mettait pas un pied devant l'autre. C'était un pilier.
Mais quand vous ne pensez qu'à votre salaire, qu'à votre contrat, qu'à vous, je vais être très vulgaire, qu'à votre figure, pour ne pas dire plus, à un moment, avec votre agent, vous ne pouvez pas rester dans un club. C'est le club qui allait imploser. Et il n'était pas le seul, Ruffier.
Il a vécu, il a eu aussi des affaires personnelles compliquées. Le club n'a pas toujours été à ses côtés à ce moment-là. Stop. Et on peut dire qu'il n'a pas non plus été particulièrement aidé.
Et on a fait une demi-heure sur donc Saint-Étienne-Rennes. Derrière les informations, on parlera donc de Téléfoot version Média Pro. Où sont passées les images du match Paris-Saint-Germain-Marseille pour sanctionner mercredi Neymar Rendez et Alvaro. La publicité et puis les informations de 19h.
RTL, on refait le match.
Les informations de 19h. Aude Vernuccio, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. 9 personnes placées en garde à vue au lendemain de l'attaque au couteau dans le 11e arrondissement de Paris. Dernière en date, les interpellations du frère du principal suspect et un homme de son entourage. L'auteur présumé, un Pakistanais de 18 ans, assume son acte devant les enquêteurs. Il s'est dit en colère après la republication des caricatures de Charlie Hebdo. Il aurait même effectué des repérages dans le but de s'en prendre à la rédaction. Les journalistes ont déménagé après les attentats de janvier dans un lieu tenu secret. Après les accusations de Gérald Darmanin, la préfecture de police de Paris répond, il n'y avait pas de menace connue dans cette rue Nicolas Appert. Le ministre de l'Intérieur a considéré hier que la menace avait pu être sous-évaluée. Surveillance renforcée ce week-end des sites sensibles et des synagogues à la veille du Yom Kippour. Des mesures nécessaires et non arbitraires selon Olivier Véran. Dès demain, fermeture des bars et restaurants pendant 7 jours dans la métropole d'Aix-Marseille. La situation sera ensuite réévaluée. À Paris, la préfecture interdit dès aujourd'hui les rassemblements privés de plus de 10 personnes. Les salles de sport ont baissé le rideau. Les débits de boissons devront fermer à 22h dès lundi. Le ministre de la Santé sera l'invité du grand jury sur RTL demain midi. Ils étaient un millier à manifester dans les rues rouennaises. Habitants et élus ont défilé un an après l'incendie de l'usine Lubrizol. 9500 tonnes de produits chimiques avaient brûlé sur ce site classé C. Véso, provoquant un énorme nuage de fumée noire sur une vingtaine de kilomètres. C'était un amoureux de la Corrèze, comme son grand ami Jacques Chirac. Et l'écrivain Denis Tillinac s'est éteint à l'âge de 73 ans. Et l'écrivain engagé à droite a signé plus de 60 ouvrages. Il a succombé la nuit dernière des suites d'une crise cardiaque. Et puis cette information en rugby, ce ne sera pas une finale franco-française en Coupe d'Europe. Si le Racing 92 a dominé les Saracens en début d'après-midi, les Toulousains sont tombés face aux Anglais d'Exeter, 28 à 18. La météo, deux départements sont encore en vigilance orange pour forte pluie et risque d'inondation. Ce soir et cette nuit, il s'agit des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales. Demain, il y aura encore beaucoup de pluie sur les deux tiers est du pays avec de fortes intensités. Entre les Hauts-de-France, la Bourgogne, l'Île-de-France et le Massif central, il faudra aller près de l'Atlantique, vers les Pyrénées et dans le sud-est pour retrouver un temps sec et lumineux. Côté température, ce sera toujours aussi frais. Le matin, comptez de 1 degré à Aurillac, jusqu'à 13 à Nice et jusqu'à 21 degrés pour la maximale. Et puis les courses à Vincennes, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 2, le 11, le 15, le 5, le 6, le 10, le 8, le 7 et sa dernière minute, le 15, Désir de Banne. RTL, il est 19h04, dans un instant, la suite d'Orphée le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
On fait le match dans la bonne humeur, avec du rire, des sourires, de l'expertise également, et tous vos messages, notamment sur le compte @RTLFoot, sur le site internet RTL.fr, émission qui est filmée, n'hésitez pas, ou l'application, en 3 clics environ, la nouvelle application RTL, Baptiste Durieux sera là pour relayer tous vos messages. Dans un quart d'heure, on fera également un premier point sur la 5e journée qui vient de démarrer, enfin, du championnat de France de Ligue 2, qui vient de démarrer, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'il y a eu un match cet après-midi, et Toulouse a battu la GOCR.
In extremis, hein.
In extremis, ouais. Effectivement. On y reviendra dans un instant. On va parler, alors, messieurs, un résultat à vous donner. Rennes est allé gagner à Saint-Etienne 3-0. On a disserté, on a débattu de ce match Saint-Etienne-Rennes pendant la première demi-heure. Et nous allons donc maintenant évoquer les sanctions à venir. Elles doivent normalement tomber mercredi. Conseil de discipline, commission de discipline de la Ligue du football professionnel, à la suite donc des paroles racistes ou pas de Neymar à l'encontre de Alvaro, et vice-versa d'ailleurs. Avec cette question, où sont passées les images ? Parce que la vérité, c'est que la commission de discipline va s'appuyer sur les images du diffuseur. Et depuis 10 jours, on entend tout et son contraire. Première séquence, premier temps, on n'a pas d'image. Deuxième temps, on a des images qui sont disponibles, mais qui ne révèlent rien. Troisième temps, les images de Globo, la chaîne brésilienne, disculpent l'enfant du pays, Neymar. Quatrième temps, les images de Globo, en vérité, sont celles de Mediapro et Téléfoot. Rien de neuf sous le soleil. Alors, qui croire ?
Il faut déjà expliquer peut-être aux gens.
Oui, Karim, car vous êtes un homme de télévision.
Il y a un cahier des charges qui est assez simple. Il y a un seul diffuseur, puis il y a un seul producteur de l'émission. Donc là, quand c'est Mediapro, ils ont entre 25 et 30 caméras. À chaque fois que vous voyez une image, c'est le réalisateur qui choisit une image. Mais les autres, les 29 caméras, continuent de marcher. Et ces images-là sont enregistrées sur d'énormes ordinateurs qui seront comme des magnétoscopes, on va dire. Donc, et à la fin de cette émission, à la fin du match, normalement, le diffuseur doit donner à la Ligue l'ensemble, ce qu'on appelle l'ours. Et donc, il faut regarder 20, 25 fois ou 30 fois, 1h30. Mais, à côté de ça, on vend des droits, ce qu'on appelle les privatifs. Et par exemple, les droits de Mediapro, de Bein Sport, Moyen-Orient. Eux, ils avaient des caméras spécifiques. Donc, vous pouvez avoir d'autres caméras spécifiques. Mais je doute que Globo ait des caméras spécifiques pour ce genre de match. Donc, forcément, c'est des images qui ont été recherchées ou offertes par un des deux clubs. Parce qu'en fait, comme le disait Jean-Luc Godard, il n'y a pas une image juste, mais il y a juste une image.
Alors, question, est-ce qu'il y a des images qui fixent de la première à la dernière minute du match Alvaro et Neymar ? Est-ce que ça existe, ça ?
Il y a 25 possibilités d'angles. Donc, il faut trouver le bon angle. Mais normalement, à partir du moment, il faut savoir que sur des matchs comme ça, il y a ce qu'on appelle des individuels. Et les individuels, on sait que Neymar, il est suivi pendant tout le match. Donc forcément, il y a une caméra qui a suivi tout le match. C'est ce que vous voyez généralement à la mi-temps, lorsque vous voyez une caméra fixe sur un joueur. Et bien là, il y avait une caméra fixe sur Neymar, donc il faut le suivre. Le problème, c'est quand ils sont face à face, je doute qu'on puisse lire réellement ce qu'on voit ou sur les côtés.
Alors, est-ce que ces images individuelles, Gilles Verdès, peuvent livrer une vérité ?
Oui, Bein Moyen-Orient, Bein MENA en anglais, hein, Middle East North Africa, Bein Moyen-Orient avait une caméra sur Neymar. Pourquoi Téléfoot n'en avait pas ? Je pense que ça frôle l'incompétence.
Non, mais... non.
Si,
non,
ah bah si, parce, si. Bah, il y a une caméra sur Neymar.
Mais parce que Bein Moyen-Orient fait un reportage, veut faire quelque chose spécifiquement sur Neymar.
Alors, quand vous êtes Téléfoot, vous ne voulez pas suivre Neymar.
Mais
alors
c'est un choix éditorial.
D'accord, très bien. Bah, je le conteste, mais ça ne regarde que moi. Donc, en fait, les images, elles existent. Et sur ces images, je suis désolé, on voit, pour les fans marseillais, on voit texto prononcer le mot « mono » par Alvaro. Puis il détourne le visage. Mono, ça veut dire singe. Donc les images existent. Le PSG les a récupérées. Pourquoi Globo les a expertisées ? Bah, sans doute parce que elles ont été transmises effectivement à Globo, qui a bossé grâce à 3 experts de lecture labiale incontestable. Et je précise, on va me dire, au Brésil, ils parlent portugais. Non, il y avait une sommité qui parlait espagnol. Elles sont incontestables. Il dit mono, Alvaro, il détourne la tête. Ils ont lu, et ces images, elles sont transmises à la Ligue. Donc la commission de discipline ne pourra pas dire, on ne lit pas, puisqu'on le lit sur les images. Si je les lis moi, ces gens bien plus futés liront aussi.
Mais Gilles, est-ce que ces comment on appelle ça, ces docteurs en lecture labiale ont fait la même chose, le même travail objectif avec Alvaro?
Alors, ils reconnaissent de la part, et c'est incontestable aussi, le PSG ne le nie pas. Neymar n'a jamais varié dans sa version. Neymar, jour après jour, il dit au PSG, il dit au président du PSG, prouvez, j'ai été victime d'injures racistes, il n'a pas varié. Le PSG sait aussi qu'il y a eu des propos homophobes de Neymar. Ah. Ça, ok.
Donc c'est racisme contre homophobie.
Hélas, hein, parce qu'il faudra aussi poser le débat un jour de ces folies qui sont prononcées, de ces mots dingues qui sont prononcés sur les terrains. Mais il y a, oui. En revanche, l'injure raciale de Neymar à Sakai, elle, pour le moment, de ce que je sais, n'est pas prouvée. Il y aurait une injure raciale, je ne vais pas la prononcer. Et là.
Gilles, vous le savez d'où ?
Bah, je le sais parce que y a des images sur lesquelles des experts qui me semblent plus contestables ont vu figurer, vous êtes d'accord pour que je ne prononce pas l'injure, de Neymar à Sakai. Bon, c'est une injure xénophobe contre les Asiatiques.
Oui,
voilà.
C'est, voilà. J'ouvre les guillemets, oui. C'est sale chinois.
Voilà, voilà.
Un peu plus que
sale. Chinois,
chinois de merde.
Chinois de merde, voilà. Ça,
ce qui
franchement...
est quand même une méconnaissance du continent asiatique.
Voilà.
Et ça, de la nationalité de Sakai, donc, en plus du reste.
Donc on est dans la xénophobie. Et ça, à mon avis, ça ne figurera pas, parce que vous remarquez que même Marseille n'appuie pas, en tant qu'entité OM Club, il n'appuie pas là-dessus. Parce que c'est pas incontestable qu'il ait prononcé
Alors,
ça.
Alors qu'est-ce qui peut arriver, Sébastien Tarrago, aux commissions de discipline mercredi prochain? On met tout le monde à 10 pas, 10 matchs de suspension chacun, homophobie, racisme.
Il
n'y
a pas beaucoup de solutions. Soit il est avéré qu'il y a eu des insultes racistes d'un côté et homophobes de l'autre, et alors c'est à minima 10 matchs de suspension pour chacun. Soit ce n'est pas avéré. Et c'est zéro match.
Bah, c'est avéré, selon Gilles Vernez.
Non, mais Gilles, il a dit ce qu'il a dit. Moi, je ne peux ni le confirmer ni l'infirmer. J'attends les instructions de la Ligue et les investigations de la Ligue et les conclusions de la Ligue.
Il n'est pas obligé de se défoncer non plus. Les images, elles existent.
Pour oui, ce mais qui moi, est, j'ai pas la certitude.
Pour ce qui est des insultes d'Alvaro, des mots. Alors, je suis d'accord que là, pour le coup, selon les angles, moi, je me réfère à ce qui a été dit, les experts.
Gilles Vernez est formel.
Langage labial. Bon, ok, mais les insultes de Neymar à caractère homophobe, elles sont claires, nettes et précises.
Ah oui ? Ensuite, il y a une...
Ah bah oui, celle-là, on les entend, on les voit.
Attention, homophobie, c'est clair, net et précis. Attention aussi à l'engrenage, parce que quand il y a 25 caméras, donc 25 possibilités de sources, on peut entrer dans une jurisprudence très dangereuse après. C'est-à-dire que si on cherche, on va trouver. Parce qu'on sait, pour avoir discuté hier avec Dorasso, avoir discuté avec Aubragnac, tous ces gens qui se disent on s'insulte pendant tout le match.
Oui, mais Karim, il faut trouver. Vous ne pouvez plus laisser des injures racistes ou homophobes sur les terrains de football. Donc il faut trouver, dénoncer, sanctionner. Il n'y a pas d'autre solution pour moi. C'est pour ça que cette affaire, hélas, de mon point de vue, elle servira d'exemple.
Mais pour ce qui concerne, ça signifie que, par exemple, Neymar devrait être suspendu 10 matchs. Hein.
Alors après 10 matchs, c'est un barème. C'est un peu comme l'histoire du crachat de Di Maria. Dès lors qu'il s'explique et qu'il y a un climat sulfureux, une provocation, quelque chose, ça a été réduit de 6 à 4 matchs. Donc là,
c'est lamentable.
Il y a un règlement.
Il a craché, les choses sont claires, il aurait dû prendre 6 matchs.
Alors à ce moment-là, on ne fait plus de commission, on ne fait plus de procès, on fait plus. Il n'y a plus d'avocat, il n'y a plus de procureur.
À un moment, un crachat, c'est un crachat. En revanche, un geste dangereux, là, tu peux discuter.
Ah non,
tu
mais
peux discuter,
crachat,
c'est autre chose.
Le crachat de Di Maria, il y a une tentative d'homicide involontaire.
Hein. Oui,
mais avec un bon avocat, avec un bon avocat, partant de coronavirus. Ouais. Pour sauver le crachat de Di Maria sur le visage.
J'ai bien lu. En fait, normalement, c'est 6 matchs minimum. 6 matchs minimum, et ensuite, c'est tout ça. Et donc, oui, c'est ça, pour ça je rejoins Sébastien.
Le barème, c'est 6 matchs minimum.
Pour un crachat. C'est une base de 6 matchs.
Ouais. 6 matchs. Et ensuite, en fonction qu'il y ait des circonstances atténuantes ou aggravantes,
vers le
plus,
visage ou pas, ou ayant touché ou pas, exactement. Après, ça grandit. Moi, si j'ai bien lu les articles d'Étienne Moiti, ça grandit. C'est 7 matchs, 8 matchs, 9 matchs.
Ou ça diminue, comme ça a été le cas. On est passé de 6 à 4 parce qu'il y a eu des circonstances atténuantes.
J'ai pas lu cette
élection. L'affaire est extrêmement médiatisée. Souvenez-vous, des histoires de crachats, il y en a eu dans le football français. Vous vous souvenez pas de Nolan Roux qui avait craché en direction d'un arbitre? Pouvait risquer jusqu'à 9 mois de suspension. Au final, il avait eu 3 matchs.
Parce que les barèmes sont différents. Hein. Oui, il aurait pu avoir 9 mois parce qu'effectivement, si vous crachez au visage d'un officiel, vous pouvez prendre 8 ou 9 mois. Mais si vous crachez au visage d'un joueur, c'est 6 matchs. Bon, c'est le barème. C'est le barème.
Après, pour revenir, je peux revenir une seconde sur votre question de base. C'est où sont les images?
Alors attendez, on va tourner une page de publicité et ensuite, On va parler de ces fameuses images. Et pourquoi on a mis autant de temps pour trouver les images? On fait le match avec Gilles Verdez, avec Karim Nedjari, Sébastien Tarrago, Philippe Sanfourche. Publicité. Et ensuite, derrière la publicité, vos messages. Allez-y sur les réseaux sociaux. Baptiste Durieux vous attend. Et le coup d'envoi de la cinquième journée du championnat de France de Ligue 2.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match jusqu'à 20h et entre 20h et 23h, RTL Foot avec notamment l'intégralité de Marseille-Metz, en vous rappelant que Rennes, nouveau leader du championnat provisoire, l'a emporté en fin de journée, début de soirée, sur le terrain de l'AS Saint-Etienne, le score 3-0. De nombreux messages sur les réseaux sociaux, Baptiste Durieux.
Oui, c'est un débat qui déchaîne les passions, évidemment, message de Zachary. Les images, surtout quand elles concernent cette superstar qu'est Neymar, on doit les avoir tout de suite, immédiatement. On doit avoir 5 caméras avec 5 angles différents sur 5 parties du corps. Évidemment qu'il y a quelque chose de flou, quelque chose qu'on veut cacher. Et puis message de Bastien, Neymar est brésilien, Alvaro l'aurait traité de singe, malheureuse insulte utilisée pour les personnes noires de peau, et Neymar traite de Sakai de sale chinois, fermez les guillemets, Sakai est japonais, oublions la commission discipline, il faut les envoyer en cours de géo. C'est le message de Bastien.
Et vous continuez de nous rejoindre évidemment sur les réseaux sociaux pour tous vos messages. Baptiste Durieux, polyvalent avec la Ligue 2, 5ème journée.
Toujours 2 buts inscrits pour l'instant, le premier par la AC Ajaccio face à Sochaux 1-0 et puis par Valenciennes face à Caen 1-0. Les autres rencontres, Amiens, Pau, Chambly, Châteauroux, Guingamp, Grenoble, Nancy, Le Havre, Niort, Paris FC et Rodez, Dunkerque.
Et cet après-midi, Toulouse l'a emporté face à la JOCR sur le score de 3 buts à 1.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Alors, où sont passées les images? Où sont passées les images, messieurs? Enfin, on les a maintenant, les images. Mais pourquoi a-t-on attendu autant de
vous
temps?
Vous sous-entendez pour... quoi quand vous posez cette question?
Bah, je
parce que c'est pas la vérité, c'est poser que la question comme ça. Non, ça veut dire que quelqu'un a les images et les a gardées sous le coude.
Vous me posez une question. Ça, je m'interroge comme je me fais le relais du public.
Non, mais le problème, c'était la communication que vous avez expliqué au début.
Si vous ne laissez pas répondre, c'est pas grave. Je viendrai avec ma réponse chez moi.
Non, je voulais vous dire, vous aviez très bien expliqué au début. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu 3 versions différentes. Et quand il y a 3 versions différentes, c'est qu'il y a eu ces flous. Et si c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
Et qu'est-ce que vous sentez? Et Philippe, qu'est-ce qu'il entend, Philippe Sanfourche?
Ben moi, j'ai l'impression qu'on est un peu sur une théorie du complot, que la Ligue aurait toutes les images, mais qu'en gros, c'est Neymar, donc il ne faut pas y toucher, donc on met les images sous le tapis.
Vous n'y croyez pas un instant?
Ah non, moi je ne suis pas sûr.
En faisant ces débats-là, c'est quand même ce qu'on induit.
Moi, j'ai une vision d'une théorie du complot, mais qui n'est pas la vôtre. Ma vision de pourquoi on n'a pas les images, c'est parce que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Mais... Et donc, Téléfoot, pro-marseillais, depuis son origine, puisque, quand même, Jean-Michel Roussier, il a été président de Marseille.
Mediapro, ils ont fait tout intérêt.
Mais pas du tout. Le président. Excusez-moi.
Que Neymar joue.
Excusez-moi. La déclaration des patrons de Téléfoot, ça a été on aimerait que Marseille batte le PSG pour que le championnat soit relancé.
C'est une maladresse.
C'est une maladresse. D'accord.
Et c'est peut-être même pas une maladresse, c'est dans un contexte. Ce n'est pas espéré la victoire.
Et
pour qu'il y ait du suspense.
D'accord.
Excusez-moi, mais partout là.
Non, je vois là où il est. Donc ils sont pro-marseillais, donc ils n'ont pas cherché.
Pro-marseillais. Non, vous dites qu'ils sont pro-marseillais.
Je dis qu'ils sont pro-marseillais.
Ne dites pas sur RTL, Première Radio de France, que le groupe Média Pro est pro-marseillais.
Je dis modestement qu'ils sont pro-marseillais, donc je dis qu'ils n'ont pas cherché les images ou Alvaro.
Mais
ça n'engage que moi.
Tout ça est également contrebalancé. Tout ça est évidemment contrebalancé par le fait que Vincent Labrune vient d'accéder à la présidence.
Lui aussi marseillais.
Mais justement très embêté parce que première commission de discipline.
Marseillais, comme moi, je suis plombier.
Non, mais il est apparenté. On est d'accord qu'il est apparenté. Donc si la première commission de discipline sous Labrune détruit Neymar pour une demi-saison, vous imaginez ce qui va s'en suivre comme commentaire.
Vous savez quand même qu'il faut rappeler aux gens que la commission de discipline est censée être indépendante.
Censée, c'est bien le terme.
Ah bah peut-être pour Gilles, elle est marseillaise.
Vous voyez une forte influence olympienne, phocéenne, marseillaise sur toute cette affaire. Je sais que les supporters marseillais ne seront pas d'accord avec moi, je les entends parfaitement. Moi, je suis supporter de personne. Je dis simplement que là, très franchement, tout est orienté pour accabler Neymar depuis le départ.
Il y a une autre affaire peut-être.
Karine Nedjari.
C'est que il y a un patron au PSG qui s'appelle Neymar, et que Neymar, quand il est sorti du vestiaire, la première chose qu'il est allé voir, c'est aller voir les dirigeants Qatari et Nasser en disant j'ai été insulté et je veux qu'on me rende grâce. Donc là, évidemment, il y a toute la puissance du PSG, mais aussi de beIN Sport, qui détient aussi les droits étrangers. Hein. Donc, il s'apaise quand même dans le truc. Donc, Neymar veut être lavé de ça. Donc, c'est, ça a aussi une puissance. Voilà, donc je suis pas, moi je veux pas être, je veux pas dire qu'il y a un complot d'un côté comme de l'autre. Parce que, en plus, on sait très bien qu'à Mediapro, il y a 70% de la rédaction qui vient de Beansport, qui était à l'époque reproché d'être trop proche du PSG. Donc on peut d'un côté rééquilibrer et d'un côté.
Écoutez, franchement, la rédaction de Mediapro, on peut pas la suspecter de quoi que ce soit. Elle fait son boulot. Les images sont arrivées. Ma question est volontairement provocatrice, parce que tout le monde se posait la question de savoir où sont passées les vraies images. Oui. Mais les vraies images, si on voulait contrecarrer ma question, on me dirait, mais tu dis n'importe quoi, Olivier, les vraies images, il n'y a pas de vraies images, il y a de fausses images. Il y a simplement des images qu'on essaie d'exploiter, qu'on essaie de trouver. Mais tout le monde a ses images maintenant. Mais la commission de
discipline
a ses images.
Mais maintenant,
pourquoi? Et on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait des tonnes et des tonnes d'images dans les différents ordinateurs, qu'il fallait tout décortiquer. Bah, il faut prendre le temps.
Alors, si c'est pas un complot de la part de Téléfoot, excusez-moi, c'est de l'incompétence intrinsèque. Au moment où vous vous lancez, vous n'avez pas les seules images qui comptent sur la planète football. C'est quand même ahurissant,
pour,
Christian.
Pour dérocher autant de caméras, il faut au moins une semaine.
Mais
avec des centaines de
centimètres à 50, il n'y a que ça qui compte, donc vous y mettez tous.
Mais ce qui est certain, c'est que ce qui est intéressant dans ce débat et qui a été évoqué par Karim, c'est qu'on marche sur des œufs parce qu'on a affaire à une star mondiale qui dépasse le cadre du football, qui dépasse le cadre bien largement de la Ligue 1 et qui dépasse également. C'est-à-dire que vous avez le pendant, quand le Paris Saint-Germain prend Neymar. Il accepte le fait d'être dépendant de ce personnage. Alors, pour le bien, parfois, parce que ça lui apporte une lumière immédiate, mais quand vous avez ce joueur qui a peut-être plus de followers sur Instagram et sur Facebook que le Paris Saint-Germain lui-même, vous en récoltez les fruits quand ça marche, mais quand il y a un souci, eh ben c'est la locomotive, mais il vous emmène aussi vers une histoire que vous ne maîtrisez pas. Et dans cette affaire, à partir du moment... Moi, je me souviens, le soir du match, les heures qui suivaient, toutes les heures, Neymar postait quelque chose de nouveau sur les réseaux sociaux.
Et là,
le club, il est obligé de suivre. Oui, il n'a pas le choix.
Parce que le Qatar aimerait sans doute se passer de ce genre de polémique.
Ah bah clairement.
C'est une évidence. Oui, mais attention, ils l'ont pris pour ça. Parce que il faut savoir une chose, c'est que Neymar est un média à lui seul. C'est un média global qui participe aussi au rayonnement du Qatar dans le monde entier. Et aussi aux droits que le football français reçoit.
Si vous voulez garder Neymar du point de vue du PSG, dont le contrat expire en 2022, vous êtes presque obligé de lui donner... non pas grâce, mais quitus sur cette affaire. S'il n'y avait pas de sanction contre Alvaro en commission, Neymar peut très bien faire une conférence de presse le lendemain en disant c'est inadmissible, le football français est raciste, on ne me rend pas justice, je suis obligé de partir la saison prochaine. C'est tout à fait possible. Mais... Neymar, je peux vous assurer qu'il en fait l'affaire, pour le moment, l'affaire de sa carrière.
Attention,
pour moi,
c'est pour ça qu'on peut pas parler de complot.
Pour moi, raison.
Attention au boomerang.
Bah oui.
Parce que quand on cherche, on trouve. Et on peut peut-être aussi trouver des choses sur lui.
Et sans doute.
Et il ne faut pas avoir la mémoire courte, parce que ce garçon a quand même eu des soucis de mœurs pas plus tard qu'il y a une saison, il y a un an. Et dans cette affaire, il avait été extrêmement couvé et protégé par le club, alors qu'il y avait des zones d'ombre qui ensuite ont été levées progressivement. Mmh. Mais au moment de l'affaire, il avait quand même également obligé le club à le suivre. Et ce n'était pas évident à ce moment-là.
Circonspect, Sébastien Tarrago.
Non, ça me fatigue. Ça fait 15 jours qu'on en parle, c'est grave, si, évidemment, s'il y a eu des propos homophobes et racistes, c'est évidemment très très grave, mais ça dit tout de ce qui est devenu le foot. Vous vouliez parler de jeu, vous parliez de rectangle vert en début d'émission.
Ah bah heureusement que je n'ai pas ouvert à 18h30 avec un sujet qui me fatigue, Sébastien.
Je suis fatigué par Neymar. Il y a de forts soupçons sur ces insultes homophobes, de très forts soupçons.
Mais consécutives aux soupçons.
Il est en train de nous expliquer qu'il a été victime d'insultes racistes. Mais c'est pareil, hein. C'est aussi grave. Il aurait mieux fait de se taire dans ce cas-là. Parce qu'il sait ce qu'il a dit. Et il aurait mieux fait de se taire. Et s'il n'avait pas été capable de se maîtriser au début, il ferait mieux de se taire maintenant. Parce que je vous entends dire qu'il en fait une histoire de principe, que c'est le tournant de sa carrière. Pour citer approximativement Gilles, j'espère pour lui qu'à un moment, il réfléchisse, garçon. Et si il a tenu des propos homophobes, comme cela semble être le cas, mais tais-toi.
Mais Sébastien, vous ne pouvez pas passer sous silence des injures racistes dans la France d'aujourd'hui qui sont délictuelles, je vous le rappelle.
Et des insultes homophobes.
Non, mais c'est ce que j'ai dit au début, il y a les deux.
C'est un délit.
Ah, bah c'est un délit. Donc, heureusement qu'on en parle, heureusement que le foot français doit purger ça.
Oui,
c'est impossible.
Mieux que ça. Parce que concrètement, vous soupçonnez le football français de vouloir enterrer cette affaire d'une manière ou d'une autre, concrètement.
J'attends avec impatience les résultats des commissions.
Mais moi, je peux comprendre ce que vous dites. Et j'espère vraiment qu'effectivement, personne n'essaiera d'enterrer cette affaire si c'est avéré.
Ce sera mercredi soir, commission de discipline présidée par monsieur
Deneux.
Il doit bien dormir, lui, en ce moment.
En tout cas, il est clair, il est strict, il est pédagogue, il sait expliquer les sanctions, il l'a déjà fait d'ailleurs à plusieurs reprises, donc on espère
Mais j'ai toujours pas compris pour démarrer quand même. Hein. En tout cas, il ne m'a pas convaincu.
Bon. Les messages, les réseaux sociaux, Baptiste Durieux.
Oui, le message de William sur @RTLFoot sur Twitter. William qui nous dit donc Neymar, 140 millions de suiveurs sur Instagram, 50 millions sur Twitter, 60 millions sur Facebook. Voilà pourquoi ça prend de telles proportions. Et puis il rajoute, pendant ce temps-là, on entendra encore cette saison des cris de singe en Serie A, des joueurs obligés de sortir du terrain pendant que le match continue, nous dit William.
Continue, merci Baptiste de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et notamment, il marche très bien le compte @RTLFoot, compte Twitter bien évidemment. Alors messieurs, il nous reste une demi-heure et il y a deux gros sujets encore à évoquer. Le mercato quand même, pour venir aux choses un peu de terrain. Même
on va
si,
parler d'argent un peu.
Hein, mercato pipo.
Mercato on a parlé racisme, homophobie, maintenant on parle d'argent.
Non, le mercato pipo.
Ah, c'est une bonne émission. Hein.
On va parler du Bayern alors. C'est l'équipe de la décennie, non. Le Bayern Munich. Eh bien on va en parler après la publicité.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h en compagnie de Philippe Sanfourche, Sébastien Tarago, Karim Nedjari et Gilles Vernez. Vos messages nombreux sur les réseaux sociaux, Baptiste Durieux. Baptiste ?
Oui, c'est bon, le micro marche.
C'est bien vous, Baptiste ?
Oui, c'est bien moi, je confirme. J'ai un message d'un supporter marseillais qui nous dit qu'Alvaro a été très touché, insulté par un supporter de l'OM cette semaine. Ça va trop loin, il a même promis de quitter le club sans indemnité. Si tout cela est avéré, cette affaire va beaucoup trop loin, selon notre auditeur qui s'appelle Dimitri.
Les dirigeants marseillais ont enfin trouvé le moyen de dégraisser à peu de frais.
Sportivement, ce serait une très mauvaise nouvelle.
Ils auraient préféré que ce soit Mérito-Goulou. Hein.
Autre message ?
Pas d'autre message pour l'instant.
La Ligue 2 peut-être, Baptiste ?
Bien sûr, cinquième journée de Ligue 2. Là, c'est Ajaccio qui mène 1-0 face à Sochaux, 1-0 pour Rodez face à Dunkerque et 1-0 pour Valenciennes face à Caen. 0-0 sur toutes les autres pelouses. Amiens, Pau, Chambly, Châteauroux, Guingamp aussi qui mène 1-0 face à Grenoble. Nancy, Le Havre 0-0, Niort, Paris FC 0-0. Et on joue depuis une demi-heure.
Et cet après-midi, Toulouse a battu la JOCR sur le score de 3-1. Tiens, on parlait de télé, c'était sur beIN Sport notamment. Et pas seulement.
Très bon commentaire. Hein.
Mais excellent. Robert Malm, formidable. Robert, ouais. Messieurs, deux sujets, le mercato pipo ou pas, ou le Bayern équipe de la décennie. On va faire le mercato pipo tout de même ou pas. Alors, si on parle du PSG, le PSG doit vendre pour 60 millions. Si on parle de Lyon, Lyon doit vendre pour 50 millions. Marseille, j'ai perdu les chiffres, mais Marseille est à la recherche.
De 100 millions.
De son équipe. Combien ?
100 millions,
100
ils
millions.
Avaient. Ouais,
ça fait beaucoup quand même. Donc, on parle beaucoup, messieurs, pour l'instant, de ventes, qui ne se font pas d'ailleurs, et très très peu d'achat. Mercato pipo ou pas, sachant qu'au 5 octobre prochain, le marché des transferts sera clos. Qui veut la parole ?
Il y a Jean-Michel Aulas qui a expliqué, il ne dit pas que des bêtises, monsieur Aulas, quand il dit que le football français a perdu 600 millions d'euros. On va faire une année.
Il dit 1 milliard.
Un milliard maintenant ?
Oui, 1 milliard
maintenant. 600 millions d'euros, entre 600 millions d'euros et 1 milliard. On va faire une année sans loge publicitaire, on va faire une année sans public, on va peut-être avoir à la fin un diffuseur qui va vous dire, comme Canal+ et beIN Sport avaient dit, mais nous, on ne va peut-être pas donner un milliard, puisqu'en fait, le spectacle proposé n'était pas celui donné. Donc, évidemment, qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent pour acheter. Quoi. Donc, on va se lancer dans une grande braderie.
Alors, au PSG, à part Neymar, Marquinhos, Mbappé, Verratti, et Navas, peut-être, oui, même sûrement, les autres sont à vendre, Philippe Sanfourche.
Non. À vendre, finalement, il n'y a pas tant de joueurs que ça. Il y a des joueurs qui collent un peu au basket comme Draxler, qui coûtent très cher, mais qui sont difficilement vendables. Je crois que Kerrer est plus trop en odeur de sainteté, mais ce sont des gros salaires.
Donc
c'est toujours la même problématique. C'est toujours la même problématique. Ce sont d'énormes salaires par rapport aux garanties que ces joueurs peuvent apporter, parce que ça fait une, deux, trois saisons qu'ils font finalement peu de matchs, donc ils ne sont pas dans le rythme, donc ils se blessent souvent, et donc ils ont perdu... ils ont perdu sur le marché.
Sébastien, Florenzi, non, mais... la seule recrue parisienne.
Bon, quand on l'a vu jouer, il a été intéressant, il sait faire des centres, c'est déjà pas mal. ça change en Ligue 1. Mais on va être confronté à cette problématique-là, parce que aussi, on a toujours vendu en France.
C'était pas ça, c'est pas un souci. C'est les clubs sont obligés de vendre tous les ans. Mais là, le problème, c'est qu'il y a personne qui achète. Et c'est ça le vrai souci. À part Chelsea qui dépense à tout va depuis le début du mercato, ils ont dû dépenser 300 millions. Les autres clubs sont un peu plus prudents aussi parce qu'ils sont confrontés aux mêmes problématiques à des échelles différentes que les clubs français.
Il y a l'Angleterre qui achète effectivement Chelsea qui a acheté mais Mendy à une somme record.
On va voir la dernière semaine.
Mais c'est quand même une somme record pour s'attacher les services d'un gardien de but. Hein. Mendy, le Rennais, je veux dire.
À somme record non parce qu'ils avaient déjà dépensé 80 millions
pour un gardien de but, Sébastien.
Oui, pour Kepa.
Mais globalement.
80 millions, ils avaient acheté ce garçon qui là est devenu donc gardien numéro 3 cet après-midi puisqu'il était remplaçant. Alors sauf s'il y a eu une blessure, mais il est tellement mauvais qu'il est devenu remplaçant et ils ont acheté Mendy. Donc potentiellement il est gardien numéro 3. Il avait été payé 80 millions d'euros.
Ce qu'a fait le PSG pour y revenir sur en anticipant sur la difficulté de vendre, c'est de réduire la masse salariale. C'est pour ça que des joueurs comme Cavani, Thiago Silva, par exemple, les discussions sur le fait qu'ils puissent rester ont été très brèves. C'est des salaires monumentaux. Le PSG, ce qu'ils veulent, c'est convaincre Neymar et ou Mbappé, si possible, les deux, de prolonger. Donc, il faudra rallonger jackpot. Neymar, c'est quand même très cher. C'est 36 millions de salaires annuels. Il faudra l'augmenter, sans doute, s'il reste, parce qu'il deviendra ambassadeur du Qatar, etc. Donc, pour augmenter cette masse salariale, il fallait dégraisser au niveau des salaires. Après, s'ils peuvent pas vendre, je pense pas que ce soit un drame pour le PSG. Pour d'autres clubs, oui.
Lyon, l'Olympique Lyonnais, ouais. Messieurs. Sans Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais, il y a quatre joueurs emblématiques, de mon point de vue, qui sont éventuellement à vendre. Alors évidemment, Jean-Michel Aulas va prendre son téléphone pour nous dire que ce n'est pas le cas et qu'il va les garder. Il y a Aouar, 35 millions pour l'Angleterre. 35 millions.
Non, mais ils le vendront pas.
Aouar, ils sont plus sur 50. Hein.
Ils veulent 50 et ils ont raison.
Depay, à Barcelone.
Eh ben oui, mais
il n'y a plus d'argent à Barcelone.
Dembélé, on ne sait pas où.
Non, Dembélé, a priori, devrait pas
partir. C'est un joueur emblématique, Dembélé.
Mais c'est une valeur marchande.
Quand même. Et Reine Adélaïde pour le Stade Rennais.
Oui, mais Reine Adélaïde, l'Olympique Lyonnais, vous voulez vraiment le garder, évidemment, puisque ça fait qu'un an qu'il est là. Mais face à la détermination du joueur, qui est quand même très très impatient, hein, puisque ce garçon, ça ne va jamais. Hein. Arsenal, ça n'allait pas. Avant, ça n'allait pas non plus. Enfin, il est jamais content. Il joue. Voilà. Il n'est pas bon, mais il n'est pas content. Mais il va partir
non,
sans doute.
Non, pas bon, non.
Il n'est pas bon. Il s'est fait les croisés. En plus.
Pas bon, le début de saison dernière, quand Lyon était à la ramasse complètement, il venait juste d'arriver. Et c'est lui qui tenait la boutique.
D'ailleurs, il était tellement bon que tous ses entraîneurs ont fini par le mettre sur le banc. Silvinho, puis Rudy Garcia.
Quand Aulas dit hier dans le progrès qu'il peut en garder 2 sur 3, on arrive à le croire. Parce qu'en fait, ils ont déjà vendu pour 55 millions d'euros. Ils ont réussi quand même à vendre Bertrand Traoré 20 millions d'euros à Aston Villa, qui est vraiment une grosse réussite. Là, s'ils réussissent à vendre Reine Adélaïde à 25 millions, soit à Hertha Berlin et tout ça, ils seront à 75. Donc, ils peuvent en vendre un seul et retrouver, parce qu'en fait, ils estimaient à peu près son déficit à 100 millions d'euros. Donc, je suis moins inquiet. Ils peuvent retrouver. Et ils ont surtout aussi soulagé la masse salariale avec le célèbre Mapu Mangaiwa, qui est parti, qui était à 300 000 ou 400 000 euros.
Puis ils envisagent aussi de faire quelques prêts. Je sais qu'il y a le formidable Jean Lucas qui devrait. Éventuellement,
ils ont besoin. Attention, ils ont besoin. Le problème, c'est que c'est un effectif extrêmement déséquilibré. Il y a trop de joueurs devant et il y a très peu de joueurs derrière, puisqu'ils avaient trois arrières droits. Maintenant, ils n'en ont plus qu'un. Donc, c'est complètement déséquilibré et il y a un vrai souci à ce niveau-là.
C'est un vrai problème quand même. Je trouve que là, Jean-Michel Aulas a trop tôt. Maintenant, il fait marche arrière. Il a trop tôt annoncé on doit vendre. Donc, du coup, les prix baissent. Quand les clubs concurrents savent que vous êtes vendeur, ils discutent en faisant baisser les prix. Donc là, il fait machine arrière en disant, comme disait Karim, oui, on va peut-être en garder, etc. Mais Lyon, attention, Lyon a besoin de retrouver la Ligue des Champions. Et c'est pas en vendant Aouar. Pour moi, la vente d'Aouar, c'est sans doute une réussite économique, mais c'est un drame sportif. Vous avez un milieu,
le vrai souci,
un milieu de 22 ans, vous pouvez pas le laisser partir. C'est impossible.
T'as raison, sportivement, c'est même si malheureusement, il manque de régularité.
Oui, mais
ce garçon,
d'accord,
et qu'il y a beaucoup de matchs qui ne l'intéressent pas.
Mais on peut critiquer Aouar. Mais alors, si vous critiquez Aouar, vous critiquez des dizaines de joueurs.
J'ai commencé en disant que tu as raison. Mais le vrai souci, c'est que Aouar voulait déjà partir l'été dernier et que cette année, il ne veut plus entendre parler de rester à Lyon.
Bon.
Il ne veut plus entendre parler.
Juste pour nuancer par rapport à ce que vient de dire Gilles, je pense que le problème est venu de plus de Juninho que d'Aulas. Parce que c'est Juninho qui dit en premier, tout ça est à vendre. Je pense qu'il manque de métier, d'expérience.
Oui, enfin, c'est Aulas qui aura le dernier mot. Hein.
Il fait des erreurs de communication qui se transforment en des erreurs de business, Juninho. Il est temps maintenant qu'il apprenne le métier.
Allez, il faut qu'on avance.
Juninho en interne, c'est très compliqué, attention. À Lyon, c'est très très compliqué ce qui se passe. Il faut faire très attention à ce qui va se passer à Lyon.
Il faut qu'on avance, les amis. Marseille à la recherche d'un équilibre financier, on le disait. Marseille qui veut vendre, mais qui, on ne sait pas trop. Sanson, Thauvin, Strootman, est-ce que ce sera suffisant
ils
pour
acheter personne n'en
veut. Mais qui veut acheter ça?
Non, mais surtout, ce qui est bizarre, c'est que s'ils ont un petit butin de 10 millions d'euros, achète un attaquant qui va te marquer des buts cette année et jouer présent.
Mais qui a 10 millions d'euros?
Mais là, ils ont acheté un joueur, le nom m'échappe.
Luis Enrique.
Luis Enrique,
18 ans.
Oui. 18 ans, 18 ans, ouais. Qui est... pour faire du trading et dans 2 ou 3 ans il va gagner de l'argent. Mais en ce moment il a plus besoin d'avoir des joueurs qui jouent et qui marquent des buts, quoi.
Il est un peu contesté, hein, Luis Enrique. Alors je viendrai faire mes excuses si j'ai tort. Ça ressemble quand même à un faux bon joueur dont Botafogo savait plus très bien quoi faire. Il était prêté. Il aura eu un début de pubalgie.
Il est blessé là déjà. Hein.
Oui. Pubalgie, c'est très compliqué.
Ce que j'ai du mal à comprendre.
En tout cas, 12 millions, là c'est contestable. La qualité du joueur, on verra, on jugera. Voilà. Sur
les Marseillais, on les sait pas. Les Marseillais ont laissé partir un attaquant à Lille, son nom est Biagi.
Le problème, c'est qu'ils l'ont laissé partir.
Oui, mais quand
ils n'ont pas réussi à le conserver, mais ça arrive à plein de clubs. Ça arrive
visiblement, il a moins un salaire de pro confirmé.
Oui, attention, Lille a cassé la tirelire.
Il faut qu'on avance. Nantes veut se renforcer avec un attaquant. Vous avez des infos? Personne? Nantes, Kovac, Monaco, nouvel entraîneur.
Nantes, il faut aussi surtout qu'ils bétonnent derrière parce qu'ils prennent des buts et des buts et des buts. Donc,
il faut qu'ils marquent devant aussi.
Oui, ça fait beaucoup pour un ce club-là.
Wendel de Benfica à Monaco, il paraît que c'est un très bon joueur, très bon milieu de terrain, très bon ratisseur, très bon récupérateur.
Ce serait le 59e joueur de Monaco.
Alors, je me suis fait un peu tacler la dernière fois en disant ça sur une chaîne.
Ah, vous l'avez dit ça aussi?
Oui, alors, on m'a envoyé des documents, et ils n'ont plus que 36 joueurs.
Bon.
Ils ont beaucoup dégraissé.
Beaucoup dégraissé, ils font le travail. Donc,
mais on parle souvent d'identification dans le foot, et moi je pense que le football français et même mondial souffre d'identification, de problèmes d'identification, parce que les joueurs ne restent pas assez longtemps, parce que voilà, c'est un souci. À Monaco, c'est terrible.
Nice, marché terminé. Bon, ils ont recruté, mais avec la puissance de feu du Néo, c'est un peu...
Énorme déception, Nice. Ouais. Si c'était pour venir et faire ça, il ne fallait pas venir.
Bordeaux, rien à signaler.
Non, mais pour Nice...
Bordeaux, attention, Bordeaux, ils voulaient se séparer. Enfin, ils étaient prêts à vendre Bacic, qui s'est blessé. Ils ont besoin de sous. Ils veulent recruter. Ils ont besoin de recruter. Ils sont en contact avec Atem Ben Arfa, mais pour autant, ça semble compliqué à faire pour l'instant. Après, ils ont besoin de dégraisser d'abord.
Karim Nedjari. Non,
c'était l'information que Dominique Grimaud avait annoncée hier, que Ben Arfa arrivait à Bordeaux.
Bon, c'est pas fait.
Une page de publicité, Lucas Dindeleu à la réalisation. On verra si on peut parler du Bayern Munich. Il y a les tirs au but également. Hein. Les tirs au but, ce sont des sujets que j'ai choisis. Je ne les ai pas communiqués. Et il faut être solide. Tu as les jambes qui tremblent, Karim, et tu prends pas la parole et t'argumentes pas. Ou t'as un mental de fer et tu prends le micro, mais il faut attendre le coup de sifflet de l'arbitre également. Il y a le coup de sifflet.
Je passerai derrière.
Allez, publicité.
Où sont les images?
On refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match à une bonne vingtaine de minutes de la fin de l'émission et ensuite 20h-23h, RTL Foot avec l'intégralité du match du soir. Il s'agit de Marseille-Metz en compagnie de Silvestro Castaldi et Monsieur Domergue. Le Bayern, équipe de la décennie. Cette semaine, le Bayern a encore ajouté un trophée dans sa vitrine. Après la Ligue des Champions, après le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne, la Supercoupe. Est-ce que c'est une équipe qui...
C'est pas compliqué d'être l'équipe de la décennie quand on est à l'automne 2020.
Dans la décennie, c'est 2021 en général d'ailleurs.
Il a raison.
2020, c'est pas la décennie, c'est à partir de 2021 qu'il démarre la décennie.
Donc ça veut pas dire que c'est l'équipe des 10 dernières années.
Je te demande d'avoir une vision un peu moins étriquée là.
C'est quand même difficile 2015, de ne pas parler du Real Madrid qui a gagné 4 Ligues des Champions. Ouais. Entre 2010 et 2020, franchement, c'est impossible. Et quelques titres de champion d'Espagne au passage. Franchement, l'équipe de la décennie, c'est évidemment celle du Real Madrid. Elle vous plaît ou elle vous plaît pas. Moi, elle me plaisait pas particulièrement. Mais c'est difficile de s'exonérer des titres.
Alors, je pose la question différemment. Est-ce qu'on est parti pour une décennie
sans lui? Mais c'est ce que j'allais dire à Sébastien. Ne soyez pas l'homme du passé, Sébastien. Soyez l'homme de l'avenir. Et peut-être que le Bayern.
J'essaye d'être l'homme du présent. Et tu sais à quel point c'est difficile.
Et peut-être que le Bayern, effectivement, sera l'équipe d'aujourd'hui et de demain. Et peut-être que le championnat d'Allemagne, même s'il est encore déséquilibré, sera
un championnat qui économiquement, lui, malgré la crise du coronavirus, a résisté et sera un championnat qui sera en expansion. Alors, il manque de concurrents, mais contrairement au PSG, dont on disait qu'il manquait de concurrents sur la scène nationale, le Bayern, ça les empêche pas de gagner la Ligue des Champions. C'est possible que ce soit le début d'une hégémonie, très franchement.
Karim Nedjari.
Moi, je pense que c'est le club, en tout cas, de ces 40 dernières années. Quoi. Je trouve que c'est un club qui, à chaque fois, sait grandir avec ses Sepp Maier, Müller, Beckenbauer, Rummenigge. Ils arrivent à grandir, ils arrivent à chaque fois à se renouveler. Quand un joueur part, là, ils ne sont pas sur les opportunités de marché. Ils trouvent tout de suite le bon recrutement. Il y a une cohérence dans ce club, il y a une logique. Et à chaque fois, même, je ne sais pas s'ils gagnent la Ligue des Champions à chaque fois, mais ils sont toujours présents. Quoi.
Il y a une moi, je trouve que leur grande force, au-delà de tout ce, qui a été dit, et cette faculté à recruter notamment, mais c'est la gestion de crise. Ce sont des clubs comme ça qui sont capables de gérer les graves crises, les grosses crises. Et Dieu sait qu'au Bayern Munich, ils en ont connu. Tu parles des 40 dernières années, alors là, on pourrait en parler très longtemps. Et ça, c'est une grande force pour un club. C'est très grande force.
Une structure, c'est vrai que on a oublié, là, dans l'intervalle entre le Real et le Bayern, Liverpool nous a offert des heures formidables. Et puis Liverpool s'est essentiellement concentré sur le fait de retrouver ce titre de champion d'Angleterre avec tout ce que ça peut représenter la saison passée. Donc, ils sont également sur une dynamique extrêmement positive. Mais on peut être en droit aussi de se poser la question de ce que deviendrait Liverpool si demain Jürgen Klopp s'en allait. On se pose pas cette question avec le Bayern, puisque le Bayern a démontré par l'absurde la saison passée qu'en changeant d'entraîneur en cours de saison, il pouvait faire la saison parfaite. Donc effectivement, c'est une structure, c'est une façon de fonctionner qui passe à travers les âges, alors que le football est en train de se transformer de manière radicale. Ce club,
il y a très encéphalogramme plat, ça fonctionne. Il y a la Juventus, tu vois.
Ouais, il y en a
le Bayern de Munich, le Real Madrid,
Manchester.
Bah Manchester, United. Ils ont quand même beaucoup, beaucoup souffert.
Manchester United, oui, mais sur les.
Oui, ah non, sur les
Manchester, oui, Manchester, il y a eu le changement d'actionnaire qui a fait que ça a changé un peu de nature et d'âme.
Un petit peu.
Au Bayern, on a toujours l'impression qu'il y a cet esprit bavarois qui se transmet de génération en génération.
Et Barcelone, c'est n'importe quoi depuis 5-6 ans, mais quand même.
Le Bayern, aussi, c'est le club de la décennie future et c'est le club des 40 dernières années.
En tout cas, c'est un modèle. C'est certain que c'est un modèle de fonctionnement et de cohérence sportive globale.
Une dernière salve de messages sur les réseaux sociaux avec Baptiste Durieux, on fait le match émission 100% interactive.
Oui, est-ce que le Bayern est l'équipe de la décennie, Corentin nous dit l'équipe de l'année peut-être, et encore Liverpool par contre m'a vraiment épaté plus que le Bayern, et si leur domination continue en Première Ligue avec encore des finales de Ligue des Champions, les Reds seront sur le toit du monde. Message d'Alex, le 8-2 a été marquant contre le Barça comme le 8-0 contre Schalke, je pense que le meilleur reste encore à venir pour le Bayern, en plus l'équipe est jeune avec un entraîneur qui vient d'arriver, c'est épatant dans quelques années, oui ce sera l'équipe de la décennie, et puis Jean qui nous dit l'équipe de la décennie est incontestablement le Real Madrid, 3 Ligues des Champions d'affilée, 4 en 5 ans. Cette équipe est entrée dans la légende, le Bayern pas encore.
Et on approche de la fin des premières périodes Ligue 2, 5e journée, Baptiste.
Absolument, c'est la mi-temps Ajaccio qui mène 1-0 face à Sochaux, toujours 0-0 entre Amiens et Pau. Châteauroux qui mène sur la pelouse de Chambly 1-0. Guingamp qui mène 1-0 face à Grenoble, 0-0 entre Nancy et Le Havre. Niort, le leader, qui mène 1-0 face au Paris FC. Rodez 1-0 également contre Dunkerque, et puis Valenciennes qui mène face à Caen 1-0.
Et victoire cet après-midi de Toulouse face à la GOCR sur le score de 3-1. Nouvelle page de publicité et à environ 12 minutes de la fin d'Orfait le Match, on va laisser place aux tirs au but. Nouveauté de Orfait le Match cette saison, à tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Mesdames, messieurs, les tirs au but, c'est la nouveauté d'On fait le match. Des sujets d'actualité qui n'ont pas été évoqués, bien évidemment, depuis 18h30, qui n'ont pas été transmis à mes invités et qui vont devoir donc avoir un sérieux mental et ne pas avoir les jambes qui tremblent pour s'emparer du sujet. On verra si, évidemment, les réponses sont pertinentes. Mais attention, messieurs, il faut attendre, évidemment, le coup de sifflet de l'arbitre. Un sujet qui m'intéresse, qui n'a pas été évoqué ce soir, il concerne Jean-Michel Aulas, qui a lancé une petite pique au stade de Reims et à son président. Reims est éliminé, vous le savez, même pas de la Ligue Europe d'ailleurs, mais des éliminatoires amenant à la phase finale de la Ligue Europe. Et en substance, Jean-Michel Aulas a déclaré que finalement, c'est Lyon qui aurait dû être à la place de Reims. Alors, mauvais perdant, Jean-Michel Aulas ?
Il est inquiétant, Jean-Michel Aulas.
Philippe Sanfourche.
En tout cas, il inquiète beaucoup les dirigeants du football français. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Et la crise a mis en lumière sa formidable combativité. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Mais sur sa façon d'avoir un regard transverse sur l'ensemble de l'actualité, il est beaucoup moins saillant, beaucoup moins intéressant que par le passé. Et il cumule les échecs au sein des familles. S'il ne s'est pas présenté au conseil d'administration de la Ligue, c'est parce qu'il savait pertinemment qu'il allait être débouté. Et là, il est en train de perdre la direction du collège de Ligue 1, qui va revenir à Jean-Pierre Caillot, et donc il met une pique sportive, qui certes est réelle, mais qui est un petit peu facile, et qui le détourne du vrai sujet, qu'il est beaucoup moins influent aujourd'hui au sein du football français.
Tir au but transformé. Quelqu'un veut répondre très brièvement, mais très brièvement.
Non, juste une possibilité, et qu'en fait toutes ces saillies à l'encontre du monde professionnel cachent de sa part une volonté de rebifurquer vers le foot amateur pour prendre la succession de Noël Le Graët. Il semblait qu'il n'était plus intéressé, que Le Graët allait se représenter, Marc Keller était un successeur possible, mais là, Aulas peut se repositionner.
À propos de Noël Le Graët, merci Gilles, c'est une passe décisive que vous me donnez là. L'équipe de France femme enchaîne les bons résultats dans les éliminatoires de son championnat d'Europe. Mais il y a crépage de chignon en interne. Noël Le Graët confirme sa confiance à Corinne Diacre. Le président de la Fédération française de football a-t-il tort ou a-t-il raison ?
Je ne sais pas ce qu'il lui pense sur ce sujet.
Attention, c'était limite. Hein, vous avez la frappe en même temps que vous tirez.
J'étais enthousiaste.
Ouais, c'est comme les petits pas d'ajustement en tir.
Je ne sais pas ce qu'il prend. Pour moi, Corinne Diacre, elle a tous les défauts de Didier Deschamps et aucune de ses qualités. Et c'est terrible. C'est terrible. Il y avait une opportunité historique l'année dernière avec la Coupe du Monde en France. Elle l'a ratée lamentablement. Elle a tout fait de travers. Au lieu d'ouvrir, d'ailleurs, à la Fédération française, on l'a beaucoup regretté, au lieu d'être ouverte, au lieu de communiquer de manière positive, tout était négatif. C'est terrible. Et vous parlez des bons résultats. Mais c'est une pitrerie. N'importe qui aurait des bons résultats. Vous savez d'ailleurs, à Lyon, il a réglé le problème, Jean-Michel Aulas, c'est les joueuses qui décident si le coach reste ou pas.
Bon, une réponse est nécessaire.
Et tout le monde, et attention, hein, toutes les joueuses ont, enfin, une très grande majorité des joueuses ont des problèmes avec elles. Hein. C'est une catastrophe.
Confiance totale en Corinne Diacre, dont le seul défaut est d'être austère, mais parfois l'austérité triomphe de la flamboyance.
Elle est détestée par
tout le monde. Les joueurs,
les gens très bien sont détestés.
L'entourage.
En interne.
Oui, attention, Karim Nedjari, il faut avoir du mental dans la séance de tir au but. Attention.
Tout est parfait.
Et Noël Le Graët, pour l'instant, est patient, mais ça ne durera pas éternellement.
Autre sujet d'actualité qui n'a pas été traité, peut-être effleuré à peine, je ne m'en souviens même plus d'ailleurs, durant cette émission. Nantes. Le FC Nantes rame en championnat. Le jeu à la Gourcuff, est-ce que c'est véritablement quitta compatible ?
En tout cas, il est bien.
Ah, Karim.
En tout cas, il est bien qu'il y ait encore des Christian Gourcuff dans ce championnat. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui disent de manière narquoise, tant qu'il y a Gourcuff, je suis sûr de prendre 3 points, parce qu'il joue encore avec un système un peu désuet sur le. Mais je pense que la place du romantisme peut encore avoir lieu dans le championnat de Ligue 1. Et en plus, il a réussi une chose, c'est résister à Kita, qui normalement vire ses entraîneurs tous les 6 mois.
Il mûrit aussi, quitte avec le temps.
Ou alors il a moins d'argent à donner en indemnité de départ.
Aussi, peut-être.
Non, moi je suis d'accord. Gourcuff peut réhabiliter l'école nantaise. Si quelqu'un peut le faire, c'est lui.
Messieurs.
Ah, avec quel joueur ? Parce qu'il y a quand même, là où il est contesté, c'est que manifestement, en interne, par rapport aux joueurs qui pourraient aussi monter chez les jeunes. Il n'a pas un œil non plus particulièrement affûté ces derniers temps.
Dans un club dont la structure est clanique et en dessous de lui, on lui met des chausse-trappes en permanence, je trouve qu'il s'en sort bien.
Je vous pose la question un peu différemment. Il y a une formule qu'emploie très souvent l'ami Pascal Pro. Est-ce que Christian Gourcuff n'a pas, j'ouvre les guillemets, la carte, je ferme les guillemets. C'est-à-dire qu'on ne peut rien dire sur Christian Gourcuff.
Il l'a longtemps eu parce qu'il ouvrait un ordinateur et qu'il savait s'en servir.
Je ne sais pas s'il a la carte.
Aujourd'hui, moins.
Je ne sais pas s'il a la carte, mais en tout cas, il n'a pas l'effectif. Hein. Citer 3 joueurs de Nantes et le célèbre centre de formation de Nantes ne fournit plus grand-chose. Quoi.
Autre sujet d'actualité, messieurs, attention, et on attend le coup de sifflet. Hein. Lionel Messi s'est encore payé la direction de Barcelone ces dernières 48 heures, à propos notamment, il en a profité de son ami Luis Suarez qui a été viré. Donc en substance, Messi dit, Luis Suarez, on te vire, point de suspension, etc. Au point où en sont les choses, plus rien ne me surprendra.
Même s'il avait raison sur le fond, Je trouve que Messi, après ses saillies « je pars, je reste », devrait faire vœu d'abstinence médiatique et sur les réseaux sociaux pendant au moins quelques semaines ou quelques mois, le temps de regagner des matchs. Il marque en matchs amicaux. Maintenant, il va falloir qu'il marque lors de matchs officiels. Franchement, c'est bien, mais quand on a fait ce qu'il a fait, on s'était pendant un moment et Dieu sait que je l'adore.
Karim Nedjari.
Je cherche depuis deux jours une telle attaque. Une telle attaque d'un tel joueur, comme ça, par rapport à une institution. C'est violent, ce qu'il a fait. Ça peut déstabiliser tout un club. En tout cas, il y a une chose déjà, c'est qu'il ne s'entend pas avec son entraîneur. Pour un club qui veut se reconstruire, parce qu'on sait que Koeman a mis Suarez dehors, son meilleur ami, dans quelle saison Barcelone va-t-il faire ? Et là, on parlait tout à l'heure de Neymar, qui est un média. Messi est un média aussi, qui a été repris par tous les joueurs dans le monde. C'est une des crises majeures pour un club comme Barcelone.
Allez, dernier tir au but, car à partir de 20h, ce sera RTL Foot en compagnie d'Eric Silvestro, Giovanni Castaldi et Xavier Domergue. L'intégralité notamment, mais pas seulement. Hein. Plein d'autres rendez-vous qui précéderont évidemment le coup d'envoi de Marseille-Metz. Les résultats de Marseille sont pas extraordinaires. Le jeu de Marseille est vraiment pas extraordinaire.
Ah mais là, vous parliez d'avoir la carte, l'entraîneur de Marseille, lui, là.
André Villas-Boas, justement, convaincant ou décevant dans ses mises en place tactiques ?
Il est fort, il est malin, il communique très bien vers l'externe et ça rejaillit positivement vers l'interne. Il a su se mettre son groupe à dos, je trouve, de manière un peu...
De manière un peu
facile, parce que après lui, il s'en fiche de ce qui se passera à l'Olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille a besoin de vendre. Lui, il veut surtout que ses joueurs ne vendent pas, donc ne partent pas. Ils ont une sorte de pacte pour rester, très bien, pour faire la Ligue des Champions. Franchement, il est fort en com, vraiment très fort.
Oui, mais
pour
ça suffit pas.
Non, ça suffit pas.
La conclusion, Gilles.
Quand on a des dirigeants comme il en a, il a un mérite incroyable de parfois gagner un match. Franchement, bravo Villas-Boas.
Il a aussi de l'espace pour s'exprimer et il s'est exprimé à une certaine époque. C'était surtout pour tenter le coup de poker pour partir parce qu'il pensait qu'il pourrait signer ailleurs.
Mais ça s'est passé pareil. À la trappe. Le gars voulait partir.
Arriver à mettre en attaque Lopez avant-centre pivot, faire croire que c'est un coup de génie, moi je pense que c'est un roi de la communication.
Fin, on fait le match. Merci beaucoup messieurs. Nous étions ensemble depuis 18h30 dans la bonne humeur avec de l'expertise. Les auditeurs vous ont adressé tous les messages qu'ils souhaitaient car c'est une émission interactive. Elle se prolonge avec RTL Foot entre 20h et 23h et l'intégralité notamment de Marseille. Metz, on en parlait il y a un instant. Merci Philippe Sanfourche, merci Sébastien Tarago, merci Karim Nedjari, merci Gilles Verdez. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Le foot continue. Ciao, ciao.
RTL, on refait le match.